la stratégie qu'on peut adopter, c'est une stratégie immédiate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas différer la prise en charge d'un adolescent. Il faut répondre dans l'immédiat. Bon. Et là, je crois qu'il y a des informations à donner, et puis et je pense qu'il y a une information à donner sur la signification des symptômes. Alors là aussi, c'est un sujet qui est très vaste, qui mériterait, je dirais, une journée entière. Hein. Et on ne peut pas aborder tous ces aspects. Mais les parents ne doivent pas être oubliés. Et il nous arrive de recevoir donc les parents en même temps que les enfants pour leur donner cette information. Alors parfois, il y a des parents qui refusent d'admettre. Parfois, il y a des parents qui ont une attitude très très défensive et qui refusent de considérer leur enfant comme malade, comme atteint d'un trouble, et qui vont les responsabiliser complètement. Donc là aussi, à nous d'essayer d'expliquer aux parents que des comportements excessifs ne sont pas obligatoirement en rapport avec une personnalité pathologique ou à déséquilibre, mais peuvent être directement imputables à la maladie. Ça aussi, c'est important. Parce que là encore, les parents peuvent juger. Hein, peuvent juger du fait de leur ignorance. Et donc, là aussi, il y a un travail à faire et leur faire comprendre que leur fils, eh bien, s'il a eu ce comportement, eh bien, c'est qu'il était directement... il était touché par un trouble. Je me souviens que l'un des fondateurs d'une association s'est battu pendant très très longtemps pour faire admettre à ses parents quelle était la nature de sa maladie, et les parents qui ne comprenaient pas et qui rejetaient leur fils parce que ses comportements étaient excessifs, alors que si les comportements étaient excessifs, c'était uniquement lié au trouble. Et ça, ce cas de figure, il est fréquent, il est très très fréquent, et là donc, là aussi, on a un rôle à jouer en convoquant ou en téléphonant ou en prenant donc contact avec la famille pour donner des explications. Le problème des amis. Les amis, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que les amis, c'est très souvent, quand on parle des conjoints, vous avez des personnes qui lèvent la main et qui disent « Mais attendez, moi, j'ai pas de conjoint, je suis tout seul, hein. Je suis tout seul du fait de ma maladie, et ça fait 20 ans, 30 ans que je suis tout seul, et c'est un enfer pour moi, et qu'est-ce que je fais ?» Parce que vous donnez des conseils aux conjoints, mais bon... Et c'est vrai que là, on peut se faire aider, et on peut avoir des amis qui peuvent aussi apporter un soutien, apporter une aide, et ça nous arrive de recevoir donc au cours de la consultation un ami, une amie qui va nous donner des informations et qui va apporter aussi une assistance. Hein, aujourd'hui encore, donc il y a une personne qui est assez isolée et qui a fait une tentative de suicide, mais qui s'en est sorti grâce à l'intervention d'une amie. Et là, ce qui est paradoxal, c'est que c'est l'amie qui est maniaco-dépressive, et l'autre n'est pas maniaco-dépressive. Mais c'est des renvois d'ascenseur, parce que 15 jours avant, c'était le contraire. Donc, là aussi, il ne faut pas oublier la place des amis. Mais là encore, je le répète, je crois que le problème qu'on aborde très souvent ici, c'est le problème de l'isolement affectif, qui est imputable à la maladie, parce que plus on fait d'épisodes, plus on a des comportements excentriques, plus on est dans l'excès, plus on est rejeté. Donc, à nouveau, j'insiste sur cette notion de... il faut donner une information, il faut lutter contre l'ignorance, et c'est ça qui permet une meilleure acceptation. Qu'est-ce que je voulais... aborder encore ce soir. Est-ce que Jean-Alain, généralement, tu as des commentaires particuliers, tu as des... Il faut venir là pour parler parce que c'est important. Il n'était pas prévenu. Hein.
Elle va croire qu'on est de connivence. Oui, j'ai une chose à dire, mais elle est délicate à dire. Alors, je vais essayer de me planter dans les mots, parce que j'ai déjà essayé, puis j'ai été maladroit, et ça fait un peu des vagues. D'autant que ce soir, il doit y avoir beaucoup de proches. Alors, pour souligner un peu l'importance de cette soirée, donc l'importance de l'engagement des proches dans la compréhension du trouble bipolaire, je vais essayer d'exprimer quelque chose. L'histoire de la psychiatrie, on peut la résumer de la façon suivante. Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était tout héréditaire. Et puis après, c'était tout acquis. Les psychanalystes se sont engouffrés là-dedans, c'était aussi une ânerie, et on a même dit, par exemple, que pour l'autisme, je reprends ce que tu as dit, la maman était responsable de la maladie mentale du fils par carence affective. Pas mal de mamans sont suicidées, je suppose. Et puis c'est seulement à la fin du XXe siècle qu'on s'est aperçu que les choses n'étaient pas si simples, que l'inné et l'acquis s'interpénètrent, et qu'il vaut mieux regarder ça avec des concepts de multifactorialité. Alors on va projeter ça un peu dans la vie du couple. On a eu tendance pendant longtemps à considérer le malade mental et à l'isoler, au point même qu'on ne voulait pas recevoir le proche. Et la situation de la famille, ou la situation de la vie de famille, pendant la montée d'une exaltation, on avait de façon réductrice tendance à dire « c'est la conséquence du comportement du malade ». C'est vrai, mais c'est insuffisant. On ne dit pas, on le sait maintenant, un dépressif se côtoie. Donc le proche a une incidence sur le résultat du malade. On ne dit pas, Christian Gay l'a dit tout à l'heure, à quelqu'un qui monte, t'es en train de monter. Ce qui veut dire qu'une situation familiale dure à vivre. Elle est le résultat, certes, de la maladie, mais elle est plutôt, pour être plus précis, le résultat d'une interaction, d'une interactivité entre le comportement du malade et son proche. Et il se produit un feedback. C'est-à-dire que le comportement du malade qui est désespérant va modifier le comportement du proche, et le comportement du proche qui devient, avec un fort niveau d'expression émotionnelle, va influencer sur l'évolution du trouble, et vice-versa, dans un effet feedback et résonnant. Donc ceci vous montre ô combien, messieurs, dames, les proches, votre présence est importante ce soir. Donc je ne suis pas tombé dans le piège de dire, bon, les proches sont parfois responsables, je pense que je ne m'en suis pas trop mal tiré.
Le vécu de ton épouse. Ça ne figure pas dans le livre, c'est vrai, et c'est parce qu'elle a joué quand même un rôle très important dans l'aide qu'elle a pu et la compréhension.
Alors bon, d'abord, elle est présente. Alors, je suis un peu paralysé pour parler, mais c'est vrai. Et bon, j'ai été quand même bon. Ce que j'ai écrit dans le livre n'a pas toujours très bien passé, même auprès de mes enfants. Considère que j'ai un peu révélé l'intime que j'aurais dû garder pour moi. Bon, plus que de me reprocher d'avoir des choses qui étaient fausses. Alors, son vécu a été très douloureux, parce que je le dis dans le livre, je peux le répéter, elle en a même fait plusieurs tentatives de suicide, donc c'est clair, donc c'est quand même un signe. Mais, je ne sais pas dans quel sens Christian Gay voulait m'entraîner. Disons que, bon, alors pour résumer, l'enfer s'est quand même arrêté à partir du jour où on s'est rencontrés et qu'on est rentré dans ce cycle de conférences. Hein. Pour moult raisons, alors j'ai beaucoup de baratin, je peux parler longtemps, mais je ne veux pas le faire. Mais je veux reprendre quand même quelque chose, justement. Si je suis là ce soir, c'est... Bon, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, c'est pas tellement que je n'ai plus rien à apprendre, mais je suis fidèle au rendez-vous depuis la première conférence. Hein. Bon, et puis, Christian Gay sait très bien qu'en dehors de ça, j'arrête pas de potasser. J'y viens parce que pour moi, c'est pratiquement une thérapie psychologique. Et, entre autres, mon épouse, dans les premières fois, ne voulait pas venir. Et puis ensuite, elle a pris plaisir à venir à ces réunions. Et à partir de là, j'ai pu parler avec elle du trouble bipolaire. Parce que c'était elle qui refusait d'en parler. Je suis resté parfois plus de 2 ans sans pouvoir aborder le sujet de conversation. Et maintenant, à condition de ne pas trop exagérer, je peux aborder le sujet pendant 1 heure par jour sans que ça l'ennuie trop. Hein. Et ça, c'est un gain, ce qui permet de faire des réglages, de mettre au point des stratégies. Alors, puisque on parlait de stratégie et puis de rôle du conjoint, moi, voilà comment je pratique. Bon, en ce moment, je suis dans une période un peu critique. J'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois. Donc, moi, je rédige sur mon ordinateur un petit peu des auto-évaluations de mon humeur, bon, de mon état de sommeil. Enfin, des tas de choses. Et ce que je fais, lui, est accessible. lui est accessible, elle peut ouvrir l'ordinateur. Et je lui en parle de toute façon en plus, donc je n'attends pas qu'elle vienne me dire « tu montes ». C'est moi-même qui vais la chercher pour faire un bilan de l'état de montée. Bon, ça permet d'éviter et de la rendre complice, en quelque sorte, des montées du niveau d'expression émotionnelle. C'est une autre façon de dire des engueulades, quoi. Hein, bon. Donc, c'est ça qui est aménagé, c'est très subtil. Parce que dans cette soirée-là, beaucoup de choses sont beaucoup de choses abordées par Christian Gay. Moi, j'ai envie de bondir et d'écrire au moins 5 livres ce soir, hein, parce qu'il y avait beaucoup de sujets à développer. Parce que là, mais tu as survolé des choses qui sont fondamentales, mais qu'il faut développer si on veut les rendre pragmatiques et utiles, parce que ça ne suffit pas. Hein, je vais prendre un exemple, ça n'a pas été ce soir, mais on dit il faut maîtriser le sommeil. Bon, d'accord, c'est bien beau de dire ça, mais comment ? Hein, et ça, c'est tout un art. Et rien que derrière la maîtrise du sommeil, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est une maladie qui est extrêmement riche. Donc on essaie de mettre au point des stratégies. On est un petit groupe de vieux briscards, on se voit en couple, et on essaie de trouver des combines pour pas divorcer. Alors on en a trouvé une, c'est que quand le niveau de tension émotionnelle est trop fort au sein du couple, plutôt de s'accrocher, il vaut mieux se mettre à distance. Soit aller vivre à l'hôtel, ou chez la belle-sœur, ou se débrouiller. On n'est pas tout seul à faire ça. Bon, tout en restant en contact. Hein, c'est délicat, parce qu'il ne faut pas non plus abandonner le malade, parce que sinon on ne sait pas où il va aller. Donc voilà, on essaie de trouver des choses. Alors, il ne faut pas non plus aller compter des cachets derrière son dos. Ça, il m'a fallu du temps pour lui faire comprendre. Mais je voyais, je disais rien, mais ça m'énervait profondément. C'est une trahison de la confiance, quoi. Bon, et la trahison de la confiance, toutes ces petites choses de la vie vont pourrir littéralement la maîtrise d'une montée en exaltation. Ça, il faut le savoir. Donc c'est compliqué. Hein. Bon, ça va, j'ai répondu à ta question.
Oui, oui. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je suis très, très admiratif par rapport à ton épouse et à son comportement, au jeu qu'elle a joué. Enfin, quand je dis qu'elle a joué, le jeu dans la mesure où elle t'a assisté, elle s'est informée au début, peut-être malgré elle, et que la perception qu'elle peut avoir aujourd'hui du trouble est complètement différente. Et cette notion de transparence, elle me paraît fondamentale. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je voudrais insister vraiment sur cette notion de transparence, de dire les choses simplement, de les dire ouvertement et de ne pas les dire de manière cachée. Et là, ça c'est un message que j'adresse à tout le monde, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas altérer la relation qu'on peut avoir avec son médecin. Et à partir du moment où les choses sont clairement établies, eh bien, il n'y a plus du tout cette notion de trahison. Et on sait que la relation avec son médecin, elle est fragile. Elle est fragile d'autant plus que, je le répète, on est dans l'excès. Et que le maniaco-dépressif, le bipolaire, est quelqu'un qui est authentique, est quelqu'un qui est entier, est quelqu'un qui est, je dirais, très affectif, et qui peut couper court avec son psychiatre s'il se sent trahi, s'il sent qu'il y a un manque de confiance, s'il y a quelque chose qui se passe. Ça, on le voit. Et ça, c'est fondamental. Et à partir du moment où on est dans cette relation de confiance, transparence, les choses se passent bien. La deuxième chose que je vais dire, c'est que, et ça, c'est une conviction. C'est une conviction, mais c'est quelque chose qui est personnel. C'est que très, très, très longtemps, on disait, quand on est psychiatre, et bien on garde quand même une certaine neutralité avec le patient. Et donc, on garde une distance, et plus particulièrement avec le maniaco-dépressif, parce que le maniaco-dépressif, c'est quelqu'un qui est très subtil et qui va tout de suite trouver la faille, et qui va jouer de la relation, bon, et qui est en plus quelqu'un qui peut être facilement tomber dans la dépendance, donc attention, prudence. Non, moi je dirais que plus cette relation est forte, plus les choses se passent bien. Et les relations, je dirais, on ne va pas dire amical, mais où il y a une dimension d'amitié et de respect réciproque, je dirais qu'elles sont fondamentales dans cette prise en charge. Et on le voit, moi je le vois au niveau des maniaco-dépressifs que je suis amené à suivre, eh bien c'est vrai qu'on a une qualité relationnelle qui est très particulière et il y a une dimension d'amitié, et c'est vrai que parfois, on peut se laisser aller parce que ce n'est pas antithérapeutique. Et quand je dis se laisser aller, je fais toujours référence à ce patient qui aimait bien les femmes tarifées. Donc j'ai pas été avec lui voir des femmes tarifées, mais il m'avait invité à déjeuner dans un petit boui-boui qu'il fréquente et tout ça, et c'était fabuleux, donc j'étais avec lui. Et ce qui était extraordinaire, c'est que cet homme qui avait un niveau socioculturel très élevé, il allait dans un petit boui-boui et il était accepté par tout le monde, il passait partout. Et là aussi, il y a une chose que je veux dire, c'est que le maniaco-dépressif est quelqu'un qui passe partout, parce qu'il est entier, parce qu'il est direct. C'est vrai, tu ne vas pas me contredire sur ce point, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui fait que il sera accepté.
Moi, j'ai toujours été totalement inapte aux mensonges. Je ne peux pas supporter les hypocrites, hein, ça c'est clair. Bon, j'ai un petit truc à rendre à mon épouse quand même, parce que je ne suis pas un communicant, justement. Donc tu as dit que tu avais de l'admiration. Bon, c'est vrai que le problème est simple, sans révéler de choses qui sont trop intimes. Donc on a fait un couple trop fusionnel et mon épouse, en quelque sorte, rentre dans des angoisses rapides, ce qui donne un niveau émotionnel fort qui lui fait perdre son efficacité. Et si vous avez un niveau émotionnel, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit, là c'est pas vraiment de l'agressivité, disons, ou si ça en vient, c'est pour des raisons de peur. Vous savez, la peur mène à l'agressivité, c'est bien connu. Donc le résultat, c'est qu'on sait très bien dans notre groupe que la personne qui serait la mieux placée pour aider un bipolaire, c'est pas son conjoint. Parce que la distance affective est trop étroite et il y a trop d'émotionnel entre les deux. Mais seulement, là, c'est une quête de l'impossible. Si on peut tomber sur un bon copain, un voisin, etc., un beau-frère, une belle-sœur, c'est peut-être mieux. Je dis bien peut-être, mais prudent. Enfin, fais la recherche, on réfléchit. Mais dans les couples, c'est bon. Moi, j'ai eu le courage de dire certaines choses dans le livre, mais j'aimerais bien être une petite souris et aller voir dans les autres couples de bipolaires ce qui se passe. Déjà, je veux dire, en dehors des bipolaires, si on allait voir dans les couples du français moyen ce qui se passe, vous serez effrayés. Hein. Bon. Et les psychiatres le savent très bien. Hein. Alors on dit toujours dégoulinant mièvrerie, c'est le lieu d'amour, de fraternité, etc. C'est aussi le lieu des plus grandes violences, il faut le savoir. Et c'est normal, c'est la règle du jeu. Bon, chez les bipolaires, je ne suis pas évident qu'il y en ait vraiment beaucoup plus. Mais je pense que c'est le niveau d'expression émotionnelle. Il faut désémotiver, donc il faut jouer la transparence et il faut responsabiliser le patient. Il faut donc le responsabiliser. Il y a une astuce première, par exemple, si le proche s'inquiète, le meilleur ou le moins mauvais, c'est surtout pas lui dire « je te vois monter », c'est lui dire « comment tu te sens ?» C'est déjà renvoyer, voyez, la question pour que lui avoue « ah ouais, je te reconnais, je me sens un peu plus haut aujourd'hui hein, ». C'est déjà plus fin, déjà. Hein. Bon, l'idéal, c'est d'écrire et puis que l'autre aille lire. Et puis, mon épouse l'a fait la dernière fois, elle a lu, et souvent elle était d'accord. On décidait ensemble, tiens, bon, ça c'est un mauvais conseil, je peux leur dire, j'ai pris du Zyprexa tout seul. Bon. Elle me dit, oh non, monte pas ton Zyprexa, je te trouve bien, ça m'arrivait d'en prendre plus que ce qu'elle me disait. Bon, à la fin, malheureusement, j'ai fait le contraire, ça s'est mal terminé. Bon, voilà, c'est tout.
Je vais rebondir sur ce que dit Jean-Alain, à savoir que le niveau d'expression émotionnelle, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a plein d'études qui ont été publiées récemment et qui insistent sur le fait que des conflits et au sein de la famille sont générateurs de rechute maniaque. Pas de rechute dépressive, de rechute maniaque chez quelqu'un, bien sûr, qui est prédisposé. Et c'est là où il y a un travail au niveau de cette dynamique familiale, de faire qu'on puisse contrôler ses émotions. Et c'est sûr que le conjoint, il a ses émotions et parfois il n'en peut plus et on est dans quelque chose... C'est l'escalade. Donc là, il y a un travail et il y a une information à donner et on aboutit à des résultats qui sont positifs. Et ça, c'est fondamental, au même titre que les rythmes du quotidien qu'il faut respecter. Et c'est sûr qu'à partir du moment où le conjoint a été informé, eh bien, on aura quand même plus de facilité à respecter ces rythmes du quotidien. Qu'est-ce que c'est que les rythmes? C'est des routines. Eh bien, savoir que ces routines, si elles sont perturbées, eh bien, on a des plus de risques de retomber dans l'état d'excitation. Or là, c'est mieux de le faire à deux, c'est une évidence. Et quand le conjoint est informé sur l'importance de ses routines, sur la nécessité de se lever, de se coucher à des heures à peu près similaires, de respecter des temps de pause, d'avoir quand même une certaine linéarité, même si le maniaco-dépressif, par essence, est quelqu'un qui n'est pas linéaire, eh bien, ça contribue considérablement à son amélioration.
Ouais, au niveau des émotions, alors les émotions, c'est un sujet hyper compliqué. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, Une fois, j'ai demandé à Christian Guy, est-ce que les psychiatres sont formés pour ressembler à des édredons ? Alors, chaque fois qu'on leur envoie quelque chose d'un peu fort, ça fait flop. Ça ne rebondit pas. Il m'a répondu, non, c'est avec l'habitude que ça vient. Je ne me suis pas permis de lui poser la question. J'en connais la réponse. Docteur Christian Guy, je vais le taquiner un petit peu, mais pour tout homme, c'est un homme comme tout le monde, s'il est aussi capable de gérer ses émotions dans d'autres domaines de sa vie. La réponse, c'est qu'il n'est pas plus malin qu'un autre. Mais là, il a appris dans ce domaine-là à être plus malin qu'un autre. Je veux dire qu'on va apprendre à gérer une émotion, par exemple la peur, dans certaines circonstances, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on va gérer toutes ces émotions. C'est très complexe, ces émotions. C'est infiniment compliqué, c'est le centre névralgique du cerveau, en quelque sorte. Donc l'émotion d'apprendre à gérer une montée en exaltation, bien, ça va mieux, et je peux dire que mon épouse progresse énormément, et la dernière fois, je l'ai écrit, encore un petit peu, et tu vas être parfaite, quoi. Bon, ah, je suis sympa, quand même.
En tout cas, par rapport à ce problème des émotions, c'est vrai que le flop, on n'y arrive pas, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que, heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'habitude, et que même par rapport à ces patients, et quand on se retrouve face à des patients, et je ne veux pas du tout être démagogue en disant ça, quand on se retrouve face à des patients qui ont une telle richesse, eh bien, y a véritablement un engagement. On est complètement engagé, et puis c'est sûr que ça fait très très mal quand ça se passe mal. Ça, c'est sûr que ça fait beaucoup plus mal, et pour nous, psychiatres, du fait de cet engagement, de cet investissement et tout ça. Et malheureusement, on est confronté aussi à des drames, et malheureusement, on y est confronté souvent à partir du moment où on se retrouve face à des pathologies qui sont potentiellement graves. Donc, mais c'est vrai que le travail, y a un travail, on en a parlé souvent ensemble, au niveau personnel, en particulier en ce qui concerne l'acceptation, en ce qui concerne le plaisir, en ce qui concerne le fait d'être son meilleur ami, en ce qui concerne le fait d'essayer d'avoir des gratifications qui permettent de se protéger. Ça, c'est un autre sujet, mais ça me paraît fondamental. On va peut-être arrêter là. Je vous remercie de votre attention, mais on va vous passer la parole pour les questions. Merci. Voilà.
Oui, bonjour, docteur Gay. Okay. Voilà, je m'appelle Corinne, je suis PMD. Et moi, ma grande préoccupation et ma très grande souffrance, c'est de savoir comment protéger mes proches de cette souffrance, qu'ils se prennent en pleine figure et qui, moi, me fait descendre dans la dépression très, très, très loin parce que finalement, eh bien, je me trouve... je m'isole pour exprimer le moins possible de manière à ce que j'ai envie qu'ils me comprennent, qu'ils comprennent mes réactions, mais en même temps je m'isole parce que je ne veux pas leur faire de mal. Et en ce moment je suis dans une phase de dépressif terrible parce que mon psy m'a lâché comme ça, bon, peu importe. Et alors je me retrouve comme enfermée dans une boîte, je n'ai plus d'interlocuteur et je ne veux pas faire porter la maladie à mes proches, parce que mes proches, je les aime, et que la maladie, je dois la faire avec. Et voilà, donc moi, ça me paraît fondamental aussi, comment protège-t-on ses proches? Parce que protéger une PMD, ok, mais protéger les proches, ça me paraît aussi essentiel, parce que c'est une maladie qui me semble être véritablement contagieuse.
La question que vous soulevez, madame, donc il y a un témoignage, hein, avant tout, hein, et c'est vrai que c'est une réalité, et c'est la question qui est fondamentale. Je dirais, comment les protéger? Eh bien, c'est déjà en se donnant, et là c'est très très utopique ce que je vais vous dire, parce que vous avez en plus un psychiatre qui vous a lâché, mais c'est déjà de pouvoir accéder à des soins qui soient corrects, et de pouvoir bénéficier d'un ensemble de soins. C'est-à-dire que les soins de la maladie maniaco-dépressive ne se limitent pas simplement à des médicaments, mais il y a une prise en charge, je dirais, qui est globale et qui, à la fois, associe une thérapie de soutien, des mesures psychoéducatives, des thérapies interpersonnelles, des thérapies comportementales, donc d'arriver à mettre tout en place. Deuxièmement, c'est que Là encore, je crois que le psychiatre, il a un rôle fondamental au niveau de l'entourage, par l'information qu'il pourra donner, par l'explication. Alors c'est sûr que quand on vit au quotidien avec quelqu'un qui est mal équilibré, qui est confronté à des souffrances, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est vrai que c'est très douloureux. C'est douloureux pour le conjoint, c'est douloureux pour les enfants. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que le conjoint, les enfants, ils avaient besoin d'une assistance, ils avaient besoin d'être à la fois écoutés, à la fois informés, et puis parfois soutenus, parce qu'il y a des moments où on n'en peut plus et on est effrayé. Donc là, il y a tout un travail, il y a des thérapies familiales qui peuvent être mises en place aussi, et qui peuvent être une solution. Donc je dirais que la question que vous soulevez, ben, je dirais que c'est la question de ce soir. C'est vous, donc, vous l'inversez, c'est-à-dire que la question, c'est vivre avec un maniaco-dépressif, et on pourrait dire, quand on est maniaco-dépressif, comment vivre avec sa famille? Mais c'est vrai que c'est une autre question. Et comment ne pas faire de mal? Et là, je dirais que on pourrait poser la question à Madame Génermont, on pourrait poser la question à nouveau à Jean-Alain, mais c'est vrai que cet accompagnement, ce travail, la non-exclusion, parce que très souvent, le rejet est pire que tout, et le fait d'avoir un support amical, par exemple, ce que disait Jean-Alain avec ses petits groupes-là et ses dissidents-là qui se réunissent une fois par semaine, là, c'est un soutien énorme. C'est un soutien énorme parce que vous vous retrouvez face à d'autres personnes qui sont confrontées exactement au même problème que le vôtre, parce qu'il y a les conjoints qui sont là et parce qu'il y a une entraide. Et ça, c'est important, mais il faut mettre ça en place et c'est difficile.
Je suis prête à vous poser. Oui, non, moi j'ai une question concrète à poser. Quand mon petit frère, que j'aime très fort, me voit les yeux dans le vide et que lui, ça l'atteint profondément et qu'il passe sa journée à dormir d'accablement, moi ça je ne veux pas, parce que c'est ma maladie à moi. Ça n'est pas celle de mon petit frère, ça n'est pas celle de ma mère, ça n'est pas celle de mon mari. Alors, qu'on m'aide, c'est vrai qu'il est très important d'être compris. C'est la base même de l'acceptation. Mais comment, quand il y a, on a son petit frère qui vous regarde comme ça, les yeux dans le flou, qui ne comprend pas, comment on le protège? Comment?
Vous savez, je crois que vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous aimer, les gens d'être inquiets pour vous. Et ça, je crois que dans l'histoire et dans nos histoires à tous, on a souffert pour des proches qui étaient atteints de maladies, qui étaient atteints... Et c'est vrai que là, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner, parce que je ne sais pas si tu as une réponse à donner. Mais...
Ouais, je vais en tenter une. On cite souvent, dans ce qui aggrave la dépression nerveuse, la culpabilité. Et moi, je voudrais rapprocher cette culpabilité personnelle, dont on ne voit pas l'origine, à quelque chose de beaucoup plus profond, et particulier à la psychiatrie, qui est la stigmatisation des maladies mentales. Donc, quelque part, nous, ce que nous faisons, quand on se trouve en groupe, ou quand je viens ici presque ne rien faire, enfin, ou être simplement présent, je me déstigmatise. À force de parler du trouble bipolaire, depuis 4-5 ans, j'ai rencontré Christian Gay, j'ai presque du plaisir à en parler. Et pourtant, je viens encore de rechuter au mois d'août dernier. Et je dis, ben, si je me casse la figure dans 3 mois, c'est pas bien grave, on me repêchera. Et je suis bipolaire 1, ça se termine mal, très mal. Bon, vous n'avez qu'à lire mon livre, vous verrez. Donc j'ai appris à améliorer entre guillemets, enfin je sais pas ce qu'il faut dire, enfin à rendre moins grave mes dépressions, si vous voulez. Et j'ai réussi finalement, par cette méthode-là, à évacuer un petit peu le trouble anxieux. Hein. Vous savez, il y a des psychiatres qui considèrent qu'il y a deux choses, il y a la dépression qui est le ralentissement, et le trouble anxieux qui vient s'y greffer. Et bon, là, je viens de passer 4 mois cet hiver à ne rien foutre. Vous pouvez demander à mon épouse d'aller dans le fond. Je n'ai rien fichu. Même des jours, je ne débarrassais même pas la table. Je fais des mots croisés et tout. Rien, le néant. Mais j'ai appris à l'accepter. Je dis, j'accepte ma médiocrité. Plus vous vous rebellez contre la dépression, moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, plus vous essayez de faire des choses alors que vous ne pouvez pas, plus vous allez vous culpabiliser, plus vous allez vous faire du mal. Donc acceptons, moi je suis comme un escargot, je rentre dans ma coquille, je suis en hibernation. Je ne peux pas prendre de médicaments contre la dépression hein, en tant que bipolaire. Voilà, maintenant ce que je vous dis, ça vaut ce que ça vaut.
Bonjour, moi j'ai appris ma maladie bipolaire il y a très peu de temps. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, au moins 15 jours. Et je suis suivie par un psychiatre qui m'a dit que j'étais bipolaire type 2. Alors déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire par rapport à type 1, type 2 ou type 3. Et je voulais savoir si vraiment on guérissait de cette maladie avec les traitements que l'on prend. C'est-à-dire, moi, je prends de la dépakote et je prends aussi des médicaments en phytothérapie. Je suis suivie par deux psychiatres. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire type 2 et si vraiment on guérissait de cette maladie.
Alors, répondre à la première question, c'est facile, à savoir que le type 2 se caractérise par des états d'hypomanie, c'est-à-dire que l'excitation est modérée, et des états dépressifs qui sont invalidants. Voilà, c'est ça le type 2. Concernant la guérison, eh bien, je crois que je vais vous paraître optimiste, hein, mais je veux dire que c'est une maladie qui se stabilise. Alors, encore faut-il qu'on s'accorde sur la définition de guérison. Est-ce qu'une guérison, c'est le fait de ne plus prendre du tout de traitement, ou est-ce que c'est le fait de ne plus présenter de troubles, hein? J'aurais tendance, moi, à considérer donc le deuxième aspect, c'est-à-dire ne plus présenter de troubles. Et ce que je peux vous dire, c'est que si on n'arrivait pas à guérir cette maladie, eh bien, je pense que j'aurais arrêté cette activité. Parce que c'est vrai que on y croit, on s'est investi dans quelque chose et on a des résultats, parfois on a des rechutes, parfois, je le répète, on a des drames, mais je dirais que dans la majorité des cas, on a aussi énormément de satisfaction. Et je ne devrais pas parler de satisfaction parce que je dirais que c'est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que quand un malade va bien, c'est normal. Quand il ne va pas bien, c'est là où ce n'est pas normal. Et c'est là où il faut se donner tous les moyens pour qu'il aille bien. Alors c'est vrai que ça nécessite un peu plus d'implication que pour d'autres troubles, parce que c'est plus compliqué, parce que c'est plus complexe, parce qu'il y a plein de facteurs qui interviennent.
Puis pour la confiance, parce que tu as dit qu'il fallait donner confiance, même si pour l'instant on peut dire qu'en gros on ne peut pas en guérir, ça dérovise sans médicaments, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans on aura changé de discours, on aura peut-être eu des progrès, il faut espérer.
Mais en sachant, là, je rejoins ce que dit Jean-Alain, c'est que tous les jours, il y a des progrès. Hein, savoir que il y a 30 ans, on avait un seul médicament, qui était le lithium. Aujourd'hui, on a 7 ou 8 immunorégulateurs, 5 qui sont officiels, d'autres qui sont moins officiels, mais qui ont une fonction de immunorégulateur. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc, c'est vrai que le paysage, je dirais, a complètement changé. Et d'autant plus que on propose d'autres stratégies thérapeutiques qui sont efficaces et qui viennent compléter, optimiser, je dirais, le traitement médicamenteux.
Oui, bonsoir. Je voulais m'adresser à M. Génermont tout d'abord. J'ai lu votre livre il y a quelques mois. Pardon, c'est ce qui m'a amené à suivre ces conférences, puisqu'on a un fils qui est, disons, a des troubles de l'humeur, nous dit-on, puisque la maladie n'est pas diagnostiquée. Pensez-vous avoir eu la chance, je dis bien entre guillemets, que votre maladie se soit déclarée à une époque de votre mariage où il y avait déjà une construction suffisante dans votre couple qui a permis à votre conjoint et à vos enfants éventuellement de mieux vous aider, dans la mesure où nous, notre fils, sa maladie s'est déclarée au bout de 3-4 ans de mariage, il avait 2 petits-enfants, donc sa femme n'a pas supporté et a divorcé, et il a complètement disjoncté parce qu'on lui a enlevé ses enfants. Donc, et nous, au milieu de ça, nos parents, nous ne pouvons pas nous mêler du problème du couple, puisque nous n'avons pas vu non plus venir la maladie, même si, après coup, au travers de cette, en revoyant un peu son adolescence, son enfance, on pourrait se dire que, ah, peut-être que là, oui, ce n'était pas une crise d'adolescence, mais une dépression qui était peut-être un premier symptôme de cette maladie.
Bon, je vais peut-être pas tout à fait répondre au début de votre question, si j'ai eu de la chance ou pas. C'est assez difficile de répondre à cette question.
Chance, je pense que
la réponse est probablement oui. Mais enfin, ce sur lequel il faut insister, là encore, puisque cette soirée, c'est pour les proches et les patients, c'est que le divorce ou l'isolement du patient, c'est une catastrophe. Tout doit être tenté pour essayer d'éviter ça, plus encore pour nous que pour le citoyen lambda. Je crois que aux États-Unis, on a fait des statistiques là-dessus. Enfin, c'est vraiment pas brillant. Donc, il faut sauver son couple. Bon, bouge-toi les oreilles, mon épouse. Même parce que si on n'a plus envie de le faire, vous voyez ce que je veux dire? Ça devient pratiquement une médecine, le couple. Hein, ça devient l'un des moyens presque majeurs de se défendre contre la maladie. Donc, évidemment, pour celui qui a un conjoint qui ne va pas comprendre ça, parce que le couple n'est pas encore bien formé, au bout de 3 ans, c'est récent. Ben, le malheureux, oui, évidemment, c'est pas bon, quoi. Voilà, est-ce que j'ai répondu de façon satisfaisante à votre question?
De toute façon, c'est vrai que j'attends pas de réponse miracle, et je sais que le docteur Gay peut aussi nous dire, au bout de 3 ans, la maladie peut pas être diagnostiquée, et de toute façon, vu là où il est, puisque malheureusement il est en détention, il est pas bien suivi non plus, il y a des tas de choses qui se passent, il est encore plus isolé, on a beau aller le voir 2 fois par semaine, ça n'est pas des relations...
La chance, je vais vous dire où elle est la chance. Elle est ici. Moi, j'en ai presque marre d'essayer de persuader les gens qui ne veulent pas comprendre. C'est la psycho-information. C'est le patient qui s'éduque lui-même ou que l'on aide ici à s'éduquer. C'est les proches qui s'éduquent. Cette maladie ne peut pas se réduire comme une maladie traditionnelle. Je vais voir un médecin qui fait une ordonnance, je passe chez le pharmacien, j'avale des cachets et tout ira bien. Comme ça, c'est l'échec. Il y a tout un tas de mesures qui viennent autour, l'hygiène de vie, les traitements psychologiques, etc., etc. Bon, et puis l'information, comprendre un petit peu ce qui se passe, autant que faire se peut. Donc, la chance est ici. Hein. Je suis allé au-devant de la chance, j'ai même été assez prétentieux une fois que le docteur Christian Gay. Je vais présenter mes excuses après. Je veux dire que, c'est vrai, ça n'a pas été pendant 7-8 ans, c'était la cata. Vraiment, j'étais dans une misère noire, je ne raconte pas les détails. Et puis, j'ai voulu comprendre. Hein, parce que les psychiatres que je rencontrais là-bas, il y en avait un qui m'a dit, surtout, n'essayez pas de comprendre, ça va être une catastrophe. Celui-là, allez, je donne son nom, non, c'est pas la peine. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'occupe de ça? Alors, j'avais 2 mots, c'est raconté dans le livre, hein, le mot maniaco-dépression et trouble bipolaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Jamais personne ne les avait prononcés. Donc la maladie s'est déclarée en 89-93, donc on était déjà en 96, par là. C'est à la... Allez, je fais une pub, c'est à la FNAC, j'ai fait une recherche à thème. J'ai sorti 3 bouquins ou 2 bouquins, c'est tout ce qu'il y avait. J'y suis encore allé cet après-midi à la FNAC. Il y a 1 mètre pour la psychiatrie et il y a 10 mètres pour la psychanalyse. Bon, c'est tout, sans commentaire. Hein. Donc, je suis rentré avec ces livres et puis c'est là que je trouvais l'adresse de France Dépression. Et donc, je suis allé à cette association qui disait s'occuper des bipolaires. Et là, j'ai appris que le docteur Christian Gay avait été l'un des éléments fondateurs. Puis j'ai vu qu'il avait écrit un livre sur le lithium. Donc, j'ai cherché à ce livre, je l'ai lu. Et là, il y a un passage, justement, sur le sujet de ce soir. C'est que déjà, dans ce livre-là, tu avais parlé de l'influence un peu des conjoints. Enfin, tu n'avais pas été très loin, parce qu'à cette époque-là, on n'osait pas trop aller trop loin. J'ai dit, tiens, quelque chose qui m'intéresse. J'ai dit, mais comment prendre contact avec un monsieur qui écrit des livres, hein? Et c'est là que... qu'une saisie s'est transformée. Donc que l'enfer s'est transformé peut-être pas en paradis, mais en viable, en très viable. Hein. Puis après, mon épouse a pris plaisir à venir, et moi, nous, on continue de prendre plaisir à venir, puis on s'est mis à militer pour vous aider. Bon, mais la solution, elle est ici. Hein. Ça, aux États-Unis, ça fait 30 ans qu'on fait ce qui se passe ce soir. Et puis on vient... ça a encore fait des petits, là, la semaine dernière, là, à Amiens. Bon, maintenant, il y a 5 centres où il y a de la psycho-information. Et voilà. Donc, il faut arriver à persuader les gens de venir. Et moi, je dirais au-delà, même plus qu'un cycle. Parce qu'un cycle, on a à peu près, on croit avoir tout compris, mais je pense qu'on vient à 2 cycles, 3 cycles, voire plus, ben, ça fait thérapie. Bon. Ça m'est revenu ce matin, j'étais quand même gonflé. Quand le docteur Christian Gay m'a proposé d'écrire le livre, je lui ai dit, n'oublie jamais une chose, c'est moi qui t'ai trouvé et pas l'inverse. Non, mais je sortais de psychiatre possessif et carcéraux, si vous voulez, avec qui vous êtes dépossédé de votre corps, quoi. Hein, vous savez très bien ce qui se passe avec ces gens-là, c'est pas propre à la psychiatrie.
Moi, je vais vous rappeler les paroles de mon psychiatre que je vais voir, parce que malheureusement, je suis suivie pour dépression réactionnelle, disons. Il me dit, n'essayez pas de comprendre votre fils parce que vous allez tomber dedans.
J'ai une phrase dans le livre, je sais plus, j'ai marqué, quand un danger est bien connu. Enfin, en gros, c'est plus tout à fait un danger, quoi. Bah, on sait trouver les parades.
Beaucoup plus, beaucoup plus accessible. Moi, ça me révolte d'entendre ça. N'essayez pas de comprendre. Je sais bien que je ne serai jamais dans le cerveau de mon fils.
Mais le savoir est un pouvoir, madame. Et les hommes n'aiment pas partager le pouvoir. Donc, il y a beaucoup de gens, y compris des médecins, qui ne veulent pas donner leur savoir parce qu'ils vont être les seuls à l'avoir. Bon, enfin, je n'ai pas expliqué ça. C'est... Et les profs aussi, oui. Là, c'est grave. Hein.
Bonsoir. C'est la première fois ce soir que je viens à cette conférence. Je ne suis pas bipolaire, c'est ma fille qui est bipolaire et je suis ici en tant que parent. Et depuis 8 ans, au début, on n'a pas tout de suite diagnostiqué. Donc, je vous passe les années d'enfer et de galère qu'on a passées. Et je peux vous dire que ce soir, bon, je n'ai pas de questions particulières à poser, mais en vous entendant parler... J'ai eu un petit coin de ciel bleu parce que je ne peux pas vraiment exprimer tout ce qu'on a passé parce que je vous passe les hospitalisations qui ont été délirantes à 18 ans. On n'a jamais diagnostiqué, on lui a dit qu'elle faisait une dépression suite à son échec en médecine. Je vous passe les psychiatres, les psychologues complètement nuls. Le manque d'informations qu'on a eu, on ne nous a jamais vraiment pris pour des gens intelligents, pour des parents. On nous balançait tout et n'importe quoi dans la figure. Et ce que je voulais dire ce soir, c'est que si on avait entendu ce genre de discours, ça nous aurait évité beaucoup de drames, beaucoup de malheurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, on serait peut-être pas, peut-être que on aurait plus confiance aujourd'hui dans la médecine. Parce que moi, le sentiment que j'ai et que ma fille a, c'est qu'on a passé, on est passé par des quantités de psy et de psychiatres. On ne nous a jamais vraiment dit la vérité. Ou alors, le jour où on nous a dit « Ah oui, votre fille est maniaco-dépressive », mais on ne nous a pas expliqué. On nous a dit, quand on voulait demander des renseignements, c'est moi qui ai été dans les bibliothèques pour chercher des renseignements. J'ai cherché sur Internet. Quand je demandais à avoir un rendez-vous, « Ah mais surtout, ne vous mêlez pas, hein, ça concerne votre fille, ça ne vous concerne pas vous. » On ne m'a jamais dit comment me comporter avec mon enfant, avec ma fille. Et ça, je trouve qu'il y a un manque d'information, il y a un manque de respect vis-à-vis des accompagnants, vis-à-vis des parents, et même vis-à-vis du malade, parce que même ma fille, elle allait faire des recherches toute seule, parce qu'on ne lui expliquait pas vraiment la maladie, ou alors on lui disait, ah ben non, vous ne pourrez jamais vous marier, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, vous ne pourrez pas avoir une vie normale, vous allez... Elle était persuadée jusqu'à encore quelques mois, parce qu'on a fini finalement, au bout de 7 ans et demi, par trouver quand même un psychiatre et un psy assez valable, où elle commence à changer d'optique, et parce que jusqu'à présent, elle se disait qu'elle allait finir invalide dans une maison, une institution. Donc je trouve quand même, aujourd'hui, quand même, au 21e siècle, c'est quand même dramatique qu'il n'y ait pas quand même d'intervenant pour nous dire exactement tout de suite, bon, si vous êtes bipolaire, adressez-vous à tel ou tel endroit, il existe telle ou telle chose. On est seul, on se prend ça dans la figure et on doit se débrouiller avec nos propres moyens, faire face à la maladie. Et c'est pas toujours facile parce que quand on est une famille, ça fait beaucoup de clash dans la famille. Et si j'avais eu, si on était tombé sur un psychiatre tel que monsieur, ben, je pense que les choses se seraient beaucoup mieux passées et que ma fille aurait gagné des jours de qualité de vie et des mois d'angoisse, on aurait eu une autre qualité de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que parent, ce n'est pas facile si on ne nous donne pas les clés pour faire face à ça. Moi, je me disais, quand je voyais ma fille, on est la première fois, parce que je peux vous dire que vous dites la drogue, l'alcool, ma fille, elle peut en témoigner, c'était pas du tout ça, c'est une enfant qui n'a jamais eu de problème, même si après, moi, j'ai dû faire une psychothérapie, je me suis quand même, comme vous dites, culpabilisée, j'avais beau chercher, non, je trouvais rien. Je trouvais pas un élément qui puisse me dire, tiens, pourquoi ma fille a basculé. Donc c'est ça qui est encore plus terrible, parce que on est rentré dans des suppositions. Et quand ça arrive comme ça, sans qu'il y ait aucun incident qui puisse vous faire supposer que votre enfant, du jour au lendemain, va basculer, quand vous voyez la première fois votre enfant en crise maniaque aiguë, la seule idée que vous avez en tête, vous vous dites, mon enfant est fou. Mon enfant ne va jamais redevenir normal. Et on ne m'a jamais expliqué. Moi, j'ai été obligée d'hospitaliser ma fille. Personne n'a pris le temps. Il n'y a pas une infirmière. J'ai laissé mon enfant, elle avait 18 ans, même pas 18 ans à l'époque. Je vous passe l'établissement, c'était une horreur. Je ne comprends pas encore que ça puisse exister aujourd'hui. Hein. Et en plus, la question que j'ai toujours posée au médecin, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'établissement spécifique pour des adolescents de cet âge de 18 ans qui se trouvent plongés dans des services psychiatriques où je vous passe les détails, hein, ça les bousille encore plus. Au lieu de les sortir, ça les bousille encore plus. On n'a pas pris la peine de m'expliquer 5 minutes, voilà, votre enfant, il va falloir l'hospitaliser parce qu'il y a ça, ça et ça. J'étais en état de choc. J'étais toute seule pour faire face à ça. Mon mari n'était pas à mes côtés. Ce jour-là, quand il a fallu hospitaliser ma fille, je peux vous dire que j'en subis encore le choc aujourd'hui, 7 ans et demi après.
Votre témoignage, madame, est très très parlant, mais c'est l'histoire de Jean-Alain, en sachant que bon, c'est vrai que sa maladie a commencé plus tardivement. Ce sont des récits qu'on retrouve aussi chez beaucoup de patients. Mais bon, il faut se dire, il faut être optimiste, que les choses bougent actuellement, que les choses changent, que de plus en plus maintenant, il y a des groupes d'information un peu dans toute la France. Que...
Oui, mais pourquoi cette information, les médecins ne nous la donnent pas?
J'ai lu le rapport de notre ministre, Douste Blasi. Il va mettre en place des structures de psycho-information parce qu'il n'y en a pas encore une seule en France.
Chédil
est vachement au courant de ce qui se passe.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que...
Il va peut-être nous payer la salle.
Parce qu'à 18 ans, pour moi, ma fille n'était pas encore prête, n'était pas encore, avec le vécu qu'elle avait, elle a eu une jeunesse, une enfance protégée, choyée. Elle n'était pas prête à affronter ce genre. Personne n'est prêt. Mais quand on jette comme ça dans ces services de psychiatrie, qui sont pour moi dignes du Moyen-Âge, et encore, je pense qu'au Moyen-Âge, les gens étaient peut-être plus humains. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des services spécifiques comme on vient de créer maintenant, par exemple, la maison de Solène, hein. Pourquoi on ne crée pas des services pour les gens de cet âge-là? Parce qu'ils se retrouvent... Je peux vous dire que ma fille en fait des cauchemars encore la nuit. Ce n'est pas tellement sa maladie qui la choque aujourd'hui parce qu'elle l'a acceptée, mais ce qu'elle n'arrive pas à accepter, c'est d'avoir été hospitalisée dans ces endroits-là. Elle en fait encore des cauchemars la nuit.
Mais madame, là c'est un autre débat, parce que là c'est vrai que c'est de souligner toutes les insuffisances en matière de soins, les carences. Et là, ce qu'on essaye de faire au contraire, c'est je vous dis, d'apporter quelque chose, et on le fait avec nos moyens, et je dirais que ça se passe pas si mal. Je pense que l'action qui est menée aussi par les associations, elle est importante. France Défression, Lunafam, Argos, donc joue un rôle très important, et que bah, ça va peut-être faire aussi bouger les choses.
C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, mais je vous donne un tuyau tout de suite, parce que je me suis un peu partout. Vous allez voir la FNAPSI. Bon, c'est son problème. C'est tout, j'en dis pas plus.
J'ai une question très courte. Ma fille est bipolaire, et vous avez parlé tout à l'heure, docteur, des caractéristiques de ces malades, et notamment de leur hyperaffectivité. Je souhaitais savoir, quand vous parlez d'hyperaffectivité, si ils sont très démonstratifs ou si c'est un besoin d'affection énorme qu'ils gardent en eux, mais qui n'est pas forcément visible.
Alors, je ne sais pas qui m'a posé la question.
J'arrive pas à localiser. Je suis ici, là, docteur.
Ah, d'accord. Je crois qu'il y a deux choses. Hein. Il y a d'un côté, chez certaines personnes qui ont été confrontées à une situation de carence, une demande affective très importante pour combler un manque. Et d'un autre côté, et ce qu'on retrouve, je dirais, chez l'ensemble des manéco-dépressifs, en particulier ces gens-là, c'est un côté très affectif. C'est-à-dire que c'est des gens qui fonctionnent véritablement à l'affect. Alors, le manque témoigne d'une souffrance antérieure ou d'un dysfonctionnement plus au niveau de la personnalité. Et ce qui caractérise donc le manéco-dépressif, c'est véritablement quelque chose qui fait partie d'un tout. C'est-à-dire que cette hyperaffectivité, elle s'associe à une hypersensibilité, elle s'associe à une créativité, elle s'associe à une originalité, elle s'associe à une authenticité, à une générosité, à tous ces éléments.
Merci. Juste une toute petite question très très précise. Vous avez dit qu'il fallait éviter que le conjoint soit en situation de surveillance. Or, mon mari va être mis sous curatelle et il souhaite que je sois le curateur. Que pensez-vous de cette situation?
Je crois que chaque cas est particulier. C'est là où on peut pas décider. Dans certains cas, c'est préférable que ce soit quelqu'un d'extérieur à la famille, parce qu'il peut y avoir de la manipulation, ça peut générer des conflits, tout ça. Si c'est le mari, la personne qui est directement concernée, qui le demande, ça peut être beaucoup plus simple. Parce que si vous tombez sur un curateur qui bloque tout et qui met des bâtons dans les roues, parce que ça existe aussi, hein, vous avez des personnes qui sont sous curatelle et qui se retrouvent confrontées à un enfer parce que plus rien ne se passe correctement. Donc ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Donc c'est pour ça que chaque cas est particulier et que là, si c'est à sa demande, eh bien, il peut y avoir un accord.
J'avoue quand même que ça me fait un petit peu peur de me retrouver en face de lui en épisode maniaque devant...
Je le comprends très bien parce que c'est pas simple à gérer.
Moi, je crois qu'il l'a demandé, donc il n'y a pas de trahison. Moi, je rêve que les malades mentaux, enfin les bipolaires, pour se protéger des exaltations maniaques, puissent avoir accès à une sorte de testament. Puisque finalement, la crise maniaque, quand elle est forte, c'est une sorte de mortalité, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a perte de raison, si vous voulez, on dit de conscience. Donc à partir de là, la loi dit qu'il a perdu son discernement, donc on va décider pour lui de ce qu'on fait sur lui. Donc moi, il y a ça en Italie, hein. Faire un testament dans lequel je marquerai, par exemple, je veux qu'à l'hôpital, on ne recommence pas à déconner avec le clopixol et on mette du Zyprexa, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et ce serait très utile, hein, parce que je ne suis pas forcément pris en charge par des psys brillants. Mais il faut faire avec ce qu'il y a en province.
Mon mari est soigné à Bordeaux et j'en suis très satisfaite.
Oui, mais Bordeaux, il y a Chantal Henry à Bordeaux. Bon. Mais tout c'est dans le milieu, vous savez. Donc voilà, donc cette notion. Là, lui, il vous dit, bon, bah, allez, tu me prends en charge. Bon, moi, je dis que c'est bien, c'est lui qui l'a voulu.
La question qui est posée, c'est quelle est l'évolution d'un maniaco-dépressif qui ne se fait pas soigner. C'est le problème, et ça, bon, on l'a abordé et on l'abordera à nouveau dans les problèmes de la prise en charge. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va être traité ultérieurement, parce que c'est un réel problème, c'est-à-dire que c'est le problème de l'accès aux soins et des personnes qui refusent de se faire soigner. Mais ça va être l'objet d'un autre débat, et c'est, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais... Ça mène à toutes sortes de choses, mais ça, j'aborderai ce problème qui est un sujet très vaste.
Oui.
Je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais ça, c'est abordé prochainement.
Excusez-moi, docteur, vous avez parlé tout à l'heure de... C'est moi qui parle, je suis là. Ou juste devant vous. Vous avez parlé tout à l'heure de traitement. Moi, je vois mon conjoint qui, depuis 3 ans, prend jusqu'à 600 médicaments par mois. Ça fait environ 30 par jour, hein. Ça paraît choquant pour certains, mais bon, ou 20 par jour, oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, je me demande comment me positionner, moi, par rapport à cette médicamentation, et savoir si elle est vraiment utile, et effectivement, bon, enfin, je ne pense pas à la question de savoir si elle est adaptée ou pas, parce que ça, je pense que c'est au médecin de le savoir, et non pas à moi, mais moi, comment me positionner face à ça? Puisqu'aujourd'hui, la PMD, par elle-même, la patiente, donc mon conjoint, un jour, ben, ces médicaments, elle dit que ça va lui servir, puis le lendemain, elle va penser que ça la bousille encore plus et que ça ne lui amène rien. Donc, effectivement, pour moi, c'est très dur de me positionner face à cet événement.
Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question dans la mesure où c'est impossible de se positionner. La seule chose que vous pouvez faire, c'est dans cette recherche de positionnement, c'est de vous informer, d'avoir un avis complémentaire, de voir ce qui est justifié et qui n'est pas justifié. Mais là, moi, je ne peux pas répondre à cette question.
Peut-être moi, j'ai une question qui rejoint un peu celle de madame tout à l'heure. J'ai ma fille qui est bipolaire depuis 3 ans, mais elle refuse d'admettre sa maladie et rejette toute idée de soins. C'est infernal et je voulais savoir quelle attitude adopter face à ce...
Ça on l'aborde une prochaine fois, c'est promis. Ça, je vous dis, j'ai plus le programme en tête, mais c'est soit de la semaine prochaine, soit dans 15 jours.
Donc je n'ai qu'à patienter jusque-là.
Oui, parce que c'est un vaste sujet.
Moi, je veux rajouter un petit truc sur la sexualité, la maladie et les médicaments. Alors tout d'abord, les thymorégulateurs, ça fait pas grand-chose.
Tu restes soft.
Hein. Ouais, je fais soft. Les thymorégulateurs, ça ne fait pas grand-chose. Bon, la dépression, enfin, du moins chez moi, hein, bon, je n'ai pas pu me mettre dans la peau des autres, ça abaisse la libido dans le sens des désirs, mais pas dans le sens des aptitudes. Donc, il faut faire un effort pour satisfaire son partenaire, ce qui, à mon avis, est tout à fait légitime. Bon, par contre, les neuroleptiques, c'est en général la catastrophe, sauf le Zyprexa, à condition de ne pas monter trop haut. Donc c'est pourquoi il est dommage de voir que peut-être 50% des bipolaires sont soignés avec des neuroleptiques au long cours. Je ne sais pas chez quel psychiatre ils vont, parce qu'en dehors des psychoaffectifs chez qui ça peut se justifier, le bipolaire pur n'a pas à être soigné aux neuroleptiques au long cours. Foutre sa libido en l'air comme ça, c'est un peu dommage. Et il y a une statistique qui a été faite, c'est une thèse que j'ai sur Internet, je pourrais vous la donner. Bon, et c'est un peu... Donc les neuroleptiques, c'est bien pour la crise maniaque, mais il faut s'en sortir le plus vite possible, pas seulement pour cette raison-là, mais parce que les neuroleptiques classiques vont faire descendre dans la dépression. Ouais. Voilà, et ça on oublie souvent de les retirer.
On oublie, mais le problème, et ça je vais encore être anti-déontologique, mais il y a tellement de psychiatres qui oublient d'abord la qualité de vie du patient, qui prescrivent sans s'inquiéter de la manière dont on peut vivre le médicament, et des abus d'utilisation de ces neuroleptiques, mais c'est monnaie courante, c'est-à-dire que quand on sort d'un hôpital psychiatrique avec des doses faramineuses de pibortil, de clopixol, d'aldol, et qu'on se retrouve avec ces patients qui sont à l'état de légumes, qui sont complètement parkinsonisés, enfin bon, c'est un réel problème, et on est obligé de tout reprendre, et là aussi il y a un travail au niveau de la formation et du choix des médicaments, donc pourtant, on essaye de développer cette information auprès des médecins, c'est-à-dire que l'information, on essaye de la développer auprès des patients, mais aussi auprès des médecins, avec des remises à jour et concernant aujourd'hui les meilleurs thymorégulateurs, les meilleures manières de traiter. Et c'est vrai qu'il y a des méthodes ancestrales qui persistent toujours, pour des raisons, je dirais, que j'ai du mal à expliquer, qui sont peut-être, on veut faire vite, traiter rapidement les crises. Mais après, on maintient des traitements qui sont très lourds et qui sont complètement inadaptés.
Alors bon, donc, merci Monsieur Zyprexa, parce que bon, c'est un neuroleptique, est aussi thymorégulateur. Avec lui, pour la première fois, on peut écraser une montée de d'humeur, qui peut, bon, tout en gardant une vie d'homme normale, quoi. Bon, mais là encore, on est dans un sujet délicat, parce que tout le monde ne réagit pas forcément de la même façon. Mais c'est important. C'est important parce que si vous êtes en train d'essayer, avec la complicité d'autres psychiatres, d'écraser une montée d'humeur malgré le traitement thymorégulateur, il faut que vous ayez envie de le reprendre, ce médicament. Si on vous casse brutalement à l'aldol des canoas ou je sais pas quoi, la prochaine fois, vous n'y retournez pas. Or, moi, je sais pas, j'ai essayé le Zyprexa jusqu'à 15 mg, franchement, on sent rien. Enfin, moi, j'ai rien senti, mais il y a des gens qui ont été cassés avec 5. J'ai pu avoir une vie d'homme normale. Voilà ce que je voulais vous faire comme cadeau. Demandez du Zyprexa, je ne touche pas 5%.
Deux petites questions encore, et puis...
Bonsoir. Mon fils a 25 ans et il est bipolaire depuis 3 ans. Il a été obligé d'arrêter ses études et maintenant il se retrouve avec rien. C'est-à-dire qu'il il peut pas continuer ses études, il ne peut pas avoir une vie professionnelle. Qu'est-ce que vous diriez à une mère comme moi ?
C'est des situations qui sont dramatiques parce que autour de nous, on a un certain nombre de patients qui ont pu réintégrer, je dirais, une position sociale, au sens de suivre une formation, des formations plutôt courtes, sans trop de stress. Donc je dirais que là, il faut pas perdre espoir, à savoir que l'important, c'est qu'il soit bien stabilisé. Et à partir du moment où on arrive à une bonne stabilisation, on peut réenvisager donc une formation professionnelle, mais je vous le dis, en adaptant ce choix en quelque sorte à la pathologie, à savoir que ce qu'il faut, c'est pas de stress, études relativement courtes et compatibles bien sûr avec le traitement qu'il reçoit.
Oui, et financièrement.
Et financièrement, ça c'est un autre problème. Je crois que c'est là où le psychiatre doit mettre en place, en attendant des mesures transitoires, que ce soit au niveau de la COTOREP, de pouvoir bénéficier d'une allocation adulte handicapé qui sera pas très élevée, mais qui va lui permettre quand même de fonctionner en attendant.
Je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais j'aimerais bien qu'on fasse une statistique du nombre de bipolaires qui travaillent encore et de ceux qui ont cessé toute activité professionnelle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été obligés de cesser. Hein. Ouais, moi, en tout cas, je suis encore. Hein. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pu m'en sortir financièrement pour des raisons personnelles, mais c'est un drame très courant, hein. C'est, malheureusement. Hein.
C'est un drame très courant, mais là, je vais être plus positif que Jean-Alain, parce que heureusement que beaucoup de bipolaires continuent à travailler. Je dis heureusement parce que, d'abord, il y a beaucoup de bipolaires qui ont, du fait de leur tempérament, je dirais, des postes relativement importants. Moi, je connais beaucoup de bipolaires qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont psychiatres, qui sont directeurs de société, qui ont des activités avec des responsabilités importantes. Bien sûr, d'autres personnes qui ont dû renoncer, et je dirais que ça, c'est un petit peu fonction aussi de la nature de la maladie, parce que vous avez des maladies qui sont plus fortes que d'autres, et plus handicapantes et plus invalidantes, donc qui peuvent induire bien sûr une rupture d'activité. Mais la majorité quand même des patients qu'on est amené à suivre travaillent et ont conservé un emploi. Alors bien sûr que ça dépend de la mise en route rapide d'un traitement, de la bonne coopération du patient, de la stabilité. Mais je sais que dans la salle, il y a des personnes qui sont bipolaires et qui travaillent.
Oui.
C'est difficile pour les salariés. C'est difficile pour les professions libérales, parce que sur les professions libérales, on ne peut pas s'arrêter. Je pense qu'il y a des activités peut-être qui sont plus adaptées que d'autres, avec quand il y a une certaine protection au niveau de l'emploi.
Oui, donc, moi j'étais prof en milieu difficile, donc c'était aller au casse-pipe, donc j'ai préféré arrêter, quoi.
C'était aussi un milieu pathogène et une activité qui était source de stress. Une dernière question, et puis la semaine prochaine, on reprendra.
Je voulais vous poser une question pour rebondir sur ce qu'avait dit monsieur il y a un petit moment, à propos de l'hospitalisation et de la façon dont, quand la crise maniaque est en cours, comment l'arrêter, et est-ce qu'une hospitalisation...